On va vous commencer avec Jacques Dubois pour enchaîner ensuite sur une table ronde sur le Proust de Bourdieu. Alors tout d'abord Jacques, professeur à l'Université de Liège, qui a travaillé dans le groupe MU pour tout ce qui concerne les questions de rhétorique, qu'on connaît très très bien évidemment ici pour son livre « Pour Albertine », et qui est aussi spécialiste reconnu de Simenon. Entre Proust et Simenon, il y aurait sans doute des choses à dire, mais ce n'est pas de cela que vous allez nous parler aujourd'hui.
Je me sens de l'un par l'autre.
Mais de Marcel Proust, sociologue amusant, et il va vous expliquer d'où vient cette expression. Voilà. Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous, Anne. Bien. Oui, une précaution d'abord, c'est que ce matin encore, je me demandais si j'allais vous lire le texte qui est ici devant moi, qui est écrit, ou si j'allais plutôt vous le présenter et vous le commenter. Comme, ainsi que tous les Belges, j'ai l'esprit du compromis, j'ai décidé de faire les deux. Donc d'abord de vous présenter, et puis la seconde moitié de vous la lire, si j'y arrive. Voilà, Marcel Proust, sociologue amusant, en effet. Vous verrez pourquoi dans un instant, mais ce que je vais peut-être dire à titre introductif, c'est que je reviens à cette question qui a déjà été évoquée ce matin, des deux pères fondateurs de la sociologie française, à savoir l'aîné Tarde, Gabriel Tarde, et le cadet Émile Durkheim. Je ne vais pas rappeler ce qui est trop connu tout de même, mais enfin, ce qu'ils étaient très, dans leur statut déjà très, très opposés, dans leur conviction sociale aussi. Ainsi, Tarde était professeur au Collège de France pendant que Durkheim enseignait à la Nouvelle Sorbonne. Leur théorie, j'en dirai un mot, donc je reporte. Et surtout, ils se sont pas mal disputés. Enfin, il y avait des, je ne sais pas dans quelle mesure et jusqu'à quel point, mais enfin, il y avait des agressions de l'un à l'autre. Sachant que Gabriel Tarde était une espèce de sociologue mondain, on a dit ça, c'est pas toujours aimable, mais enfin, s'agissant de Proust, ça peut passer. Sociologue mondain tourné vers ce qui est plutôt une psychologie sociale, mais comme vous l'avez vu dès ce matin, il ne nous est pas tout à fait oublié. Et je dirais même qu'il y a une sorte de retour de Tarde, pas nécessairement à propos des études proustiennes, mais de façon plus générale. Durkheim, lui, est un homme qui a vraiment fondé une discipline et une méthode. Et sans doute, tout à l'heure, vous rendrez-vous compte que c'est plutôt de l'autre côté que je me tiens, que je me sens quand je lis Proust, mais enfin, on peut dire aussi que finalement le fossé qu'il y a entre eux, et je l'entendais ce matin dans l'exposé de notre collègue, ce fossé me paraît se réduire ou en tout cas prendre des formes très différentes de ce qu'on a connu. Voilà. Alors, dernière précision, c'est que dans un instant, je vais vous présenter, pour essayer d'éviter ce qui peut y avoir d'indigeste dans l'exposé des théories, j'ai choisi de procéder comme suit. J'ai repéré dans la recherche, et ce n'est pas bien difficile aujourd'hui, les mentions du terme sociologie. Si j'ai bien fait ma tâche, il y en a trois. Je vais m'y reporter et elles vont nous en apprendre beaucoup d'une certaine façon et j'espère en même temps nous distraire. Trois occurrences donc, et je commence par la première. J'espère que vous la voyez, je vous la lis en plus. Swann goûtait un divertissement assez vulgaire à faire comme des bouquets sociaux, c'est une belle expression, en groupant des éléments hétérogènes, en réunissant des personnes prises ici et là. Ces expériences de sociologie amusantes, ou que Swann trouvait-elle, n'avaient pas, sur toutes les amies de sa femme, une répercussion identique. Oui, la répercussion, forcément, puisqu'il lui arrivait, par exemple, d'inviter une amie de sa femme en compagnie de la duchesse de Vendôme, ce qui flattait beaucoup l'ami en question, mais qui apprenait quelque temps après que Swann avait refait le même coup avec une autre amie plus médiocre, et toujours avec la duchesse de Vendôme, donc ce n'était pas très honorable ou flatteur. Oui, tout ça est plus... est vulgaire en effet, je dirais même c'est assez bête et méchant, et j'ajouterais encore que c'est pas l'idée que je me fais de Swann, qui est un homme plutôt élégant. Il n'y a d'ailleurs pas de suite à cela, c'est une sorte, ça arrive avec Proust, hein, c'est une sorte de petit épisode proustien qui, à ma connaissance, ne reviendra pas. Et j'en suis même venu à partir de là à me dire qu'au fond, celui qui est bête et méchant, ce n'est pas Swann, mais c'est Proust lui-même qui a imaginé ces expériences de sociologie amusantes. J'espère ne pas vous faire mal en disant que Proust peut être bête et méchant. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas rare que, dans La Recherche du Temps Perdu, le romancier mette en présence des gens qui ne vont pas ensemble, des gens incompatibles. C'est un procédé quasi récurrent. C'est Swann de nouveau chez les Verdurin alors qu'il est épris d'Odette et qu'il va subir toutes sortes de vexations parce qu'il est, d'un rang supérieur à ces bourgeois un peu obscurs qu'il trouve là. Et puis dans La Recherche, il y a probablement un exemple éclatant de ce genre d'intrusion d'un milieu dans un autre. C'est la réception, la raspelière, à laquelle va assister pour la première fois le baron de Charlus, qui désire retrouver là son protégé Morel. Et seront en scène, la raspelière c'est près de la mer, seront là les Verdurin bien sûr, qui sont les locataires de la raspelière, mais aussi les Cambremer, qui sont de noblesse moyenne, mettons, si ça se dit, et le baron Charlus qui fait une entrée un peu fracassante, ayant l'impression de pénétrer dans une maison plaisir. On marque par là tout le mépris qu'il a pour ceux qui le reçoivent. Voilà. À partant de là, une succession de malentendus et de quiproquos va se produire, qui sont d'ailleurs généralement comiques. J'en citerai un peu plus loin, un exemple. Mais surtout, on va s'apercevoir que c'est une véritable lutte pour la détention du pouvoir symbolique, du pouvoir culturel, et même du prestige tout court. On parlait du prestige ce matin. Par exemple, Charlus étant très soucieux de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Donc, voilà, une première forme, si vous voulez, du caractère... sociale ou sociologique, ce sont ces formes d'intrusion. J'ai même envie de dire que Marcel lui-même, je parle cette fois-ci du héros, est un drôle d'intrus en quelques circonstances. Il arrive à plus d'une fois qu'il n'est pas très sûr d'avoir été invité à une réception et qu'il force un peu la porte. Il y a chez lui un côté, décidément je ne suis pas tendre avec lui ce matin, mais c'est un peu exceptionnel. Il y a chez lui un côté picassiette ou même écornifleur qui m'apparaît de plus en plus. Enfin, c'est pas gentil de dire ça. Tout ça pour amener l'idée, si vous voulez, que un des mécanismes de La Recherche du Temps Perdu, c'est sans doute ces rencontres malencontreuses et intrusives. Mais il faut étendre la réflexion et l'enquête un peu plus loin. Et faire remarquer que ce n'est pas seulement de personne à personne que ces divisions ou ces conflits peuvent se présenter, mais ce peut être à l'intérieur d'un même être. Et nombreux sont dans La Recherche du Temps Perdu les personnages que je dirais clivés ou divisés, tiraillés qu'ils sont entre deux tendances, deux désirs, enfin, etc. Je ne vais pas en citer un grand nombre. Je vais me reporter à un exemple un peu trop connu pour ceux qui pratiquent Proust et qui concerne la marquise de Cambremer jeune. je ne sais pas s'il faut lire entièrement, je le fais, oui, bon. Et prise d'art réaliste, aucun objet ne lui paraissait assez humble pour servir de modèle au peintre ou à l'écrivain. Un tableau ou un roman mondain lui eût donné la nausée. Un Moujik de Tolstoï, un paysan de Millet, était l'extrême limite sociale qu'elle ne permettait pas à l'artiste de dépasser. Mais franchir celle qui bornait ses propres relations, s'élever jusqu'à la fréquentation des duchesses, était le but de tous ses efforts, tant le traitement spirituel auquel soumettait par le moyen de l'étude des chefs-d'œuvre restait inefficace contre le snobisme congénital et morbide qui se développait chez elle. Celui-ci avait même fini par guérir certains penchants à l'avarice et à l'adultère auxquels, étant jeune, elle était encline. Très d'humour, bien entendu, mais qu'il faut peut-être prendre tout de même un peu au sérieux, parce qu'après tout, je croirais y voir une parodie de Émile Durkheim dont je vous parlais il y a un instant, qui était un peu l'inventeur, enfin pas tout à fait, mais qui s'est beaucoup intéressé forcément à la statistique et qui essayait d'établir des liens entre, par exemple, le taux de suicide, des corrélations, comme on a dit ensuite, entre le taux de suicide et le célibat, ou le taux de suicide et l'appartenance religieuse. Voilà, mais pour en revenir à la marquise de Cambremer, vous voyez qu'elle est portée par deux forces également sociales, pourrait-on dire, un snobisme aristocratique, elle veut fréquenter les duchesses, mais en même temps un snobisme artistique ou culturel, et au total misérabiliste, un sujet artistique n'est jamais assez médiocre pour elle. Et elle n'arrive évidemment pas à concilier les deux forces puisqu'elles vont en sens contraire. La pauvre marquise de Cambremer a souvent de ces sortes d'ennuis. Enfin bon, il ne faut pas que je m'égare. Voilà, tout ça, vous le remarquerez peut-être, a un côté... Je persévère dans le mal... Tout ça a un côté Alphonse Allais. Je ne sais pas si vous lisez ou si vous aimez Alphonse Allais, mais il y a dans les drôleries de Marcel Proust, dans ces cas-là, et j'en citerai d'autres, un côté en effet absurde, comme dans le cas que je viens de citer. Voilà. Ça, c'était pour mon préambule. Et déjà, j'en viens à ce thème que je vous annonçais, à savoir qu'en est-il de Tartre, qu'en est-il de Durkheim s'agissant de Proust. Tout un courant parmi les Proustiens, on en a cité ce matin, Anne-Henri par exemple, a eu tendance à privilégier la sociologie tardienne au nom, à mon avis, essentiellement, je vous le disais, de ce qu'elle est, de façon prépondérante, une sociologie individualiste, une sociologie où les individus font société par leur action, par leurs interactions. Et je crois qu'en effet, si on veut aujourd'hui comprendre Tarde, il faut peut-être le relier à des psychosociologues ou des sociologues plus récents, et par exemple, Irving Goffman, le Canadien, dont la théorie prolonge assez bien, explore assez bien tout ce qu'il y a de théâtre de la vie quotidienne dans la recherche du temps perdu. Donc, cette société, la société proustienne est une société mimétique, qui renvoie surtout à travers la vie des salons à tout un interactionnisme dont on ne peut ignorer la présence chez le romancier et qui doit bien à la sociologie de Tarde. Cependant, cette façon de tirer le Proust tardien du côté d'un certain individualisme passe essentiellement par un ouvrage de Tarde souvent cité, ce sont les lois de l'imitation. Or, voir dans l'Archer du temps perdu un grand roman de l'imitation ne m'a jamais véritablement convaincu. C'est vrai qu'il y a des faits de cette espèce qui sont mentionnables, si vous voulez. Mais on pourrait dire que si la recherche était vraiment mimétique, imitatrice, elle serait assez contre-productive au sens où, après tout, oui, j'oublie de dire que dans la théorie de l'imitation de Tarde, il y a l'idée que chaque société a besoin d'un modèle conducteur, d'une élite qui lui donne l'exemple. En théorie, ce devrait être les guermantes dans le cas qui nous intéresse. Or, justement, si on parcourt la recherche tout au long, c'est plutôt vers le désastre que court la prédominance des aristocrates. Vers la fin, enfin je crois que c'est dans l'avant-dernière section de la recherche, il est dit que le faubourg Saint-Germain court à la faillite. En revanche, il me semble que s'il y a un Tarde à revivifier aujourd'hui à propos de Proust, c'est celui qui nous a donné, ou qui a donné dans le passé, l'opinion et la foule. C'est aussi un volume assez inconnu, mais où se trouve un très beau chapitre central sur la question de la conversation. Et l'idée de Gabriel Tarde, Hardy, me semble-t-il, c'est que dans chaque pays, dans chaque société, dans chaque lieu, la conversation donne une notion du degré de civilisation atteint par cette société. Au village, dit-il, la conversation n'est qu'un échange de formules rituelles. À la ville, elle fait l'opinion. D'où cette citation, vous ne l'aurez pas là, mais point de vue économique, hein, c'est assez audacieux pour nous aujourd'hui, la conversation uniformise les jugements sur l'utilité de diverses richesses, crée et précise l'idée de valeur, il y revient, établit une échelle et un système de valeur. Ainsi, ce bavardage superflu, simple perte de temps aux yeux des économistes utilitaires, est en réalité l'agent économique le plus indispensable, puisque sans lui, il n'y aurait pas d'opinion. Et sans opinion, point de valeur, notion fondamentale de l'économie politique et, à vrai dire, de bien d'autres sciences sociales. Alors, pour ma part, j'aurais un peu de peine à suivre Tarde dans cette voie, mais d'autres le font, au moins à ma place. Et je pense ici à un récent ouvrage de Bruno Latour et Vincent Lépinet qui va dans ce sens et qui rend justice aux vieux sociologues. Et les auteurs d'identifier dans ces traités ce qu'ils appellent une anthropologie économique qui accorde à l'intersubjectivité un rôle d'infrastructure avec participation de la conversation, de la presse, de l'opinion. Nous vivons très bien ce temps-là. Pour nous, c'est ce Tarde qui s'ajuste le plus aisément à l'œuvre proustienne, soit à la recherche, comme roman d'une oisiveté génératrice d'échanges verbaux sans fin et roman d'une lutte pour la suprématie orale. Je donne ensuite, mais je passe, quelques exemples de la manière dont les conversations, si nombreuses dans la recherche et si instructives bien souvent, comment ces conversations peuvent pousser à l'action. C'est à travers ce que dit Albertine que Marcel, un jour dans sa chambre, ose lui donner un baiser, ose lui donner le premier baiser qu'il lui donnera. Et ceci parce qu'elle emploie des idiolectes dans son discours dont il se dit, aujourd'hui on dirait, elle a couché, si vous voulez. Donc elle a connu des garçons, donc je peux y aller, et il la tire sur son lit. Je n'insiste pas davantage, mais en revanche je dirais un mot un peu plus précis, d'une expression très répandue dans la recherche que j'aime beaucoup, qui est très concise et qui tient à en être ou n'en être pas. Dans ce roman où les sociétés à demi secrètes sont nombreuses, homosexuelles, lesbiennes, dreyfusards, juifs, en être c'est toute une histoire. Bon, l'utilisation de cette formule suscite souvent évidemment de nouveau des malentendus, des méprises, et c'est le cas dans cette scène à la Raspelière dont je vous parlais tout à l'heure, Monsieur Verdurin disant à Charlus, j'imagine que vous en êtes, Charlus se croit dévoilé, perdu. En fait, Verdurin dit, voulait simplement lui faire un compliment sur ses goûts artistiques. Voilà. Eh bien, c'est un procédé qui se répète, c'est un procédé qui me semble-t-il, en dit long sur un mode social. Si vous voulez. Et j'en viens à Durkheim, tout en consultant ma montre. Ça va encore. Proust eut-il lu Émile Durkheim qu'il n'aurait pas trop aimé sa propension à théoriser. Il nous le dit dans le passage qui suit d'une manière qui n'est pas celle du cuistre Brichot, parce que Brichot en effet fait aussi allusion au nouveau professeur de Sorbonne. S'il y prend honnêtement acte de la venue d'une nouvelle science qui éveille tout un engouement chez les gens du monde, c'est pour mieux célébrer la connaissance pratique qu'a de ces mêmes gens le baron de Charlus. Et c'est dans le temps retrouvé une seconde occurrence du terme sociologie. Vous l'avez sous les yeux. En fait, les gens du monde étaient ingrats car monsieur de Charlus était en quelque sorte leur poète. Celui qui avait su dégager de la mondanité ambiante une sorte de poésie où il entrait de l'histoire, de la beauté, du pittoresque, du comique, de la frivole élégance. Mais les gens du monde, incapables de comprendre cette poésie, n'en voyaient aucune dans leur vie, la cherchaient ailleurs et mettaient à mille pics au-dessus de monsieur de Charlus, mille pics, des hommes qui lui étaient infiniment inférieurs, mais qui prétendaient mépriser le monde et en revanche, professait des théories de sociologie et d'économie politique. Texte superbe et plaidoyer pro domo en faveur d'une saisie de la réalité sociale de caractère pratique et qui ose, dans le cas de Charlus, aller voir là où les sociologues ne s'aventurent guère, à l'exception peut-être de Monique et de Michel Pinson. Il n'empêche que le tournant de Dieu... qu'au tournant des deux siècles, Durkheim et Proust ont occupé des positions équivalentes dans des aires de compétences contiguës. Le sociologue a jeté les bases d'une nouvelle science de l'homme en rupture avec la philosophie sociale d'un conte ou d'un thème et l'a doté d'un plan de travail durable. Le romancier, rompant avec un roman naturaliste et ses lourdes techniques de représentation, a défini les contours d'une forme que l'on peut dire autofictionnelle et qu'elle a déterminé tout le siècle littéraire à venir. Et les entreprises de l'un comme de l'autre ont reconfiguré de façon semblable des rapports de l'individuel et du social, de l'objectif et du subjectif. On en a pas mal parlé ce matin. Mais que je vous rappelle brièvement ce que nous apprenait Durkheim au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe d'ailleurs. Les faits sociaux consistent en des manières d'agir, de penser, de sentir extérieures à l'individu et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Donc il y a cette idée d'autonomie par rapport à l'individu. Et plus loin, n'ayant pas l'individu pour substrat, les faits sociaux ne peuvent en avoir d'autre que la société, soit la société politique dans son intégralité, soit quelqu'un des groupes partiels qu'elle renferme. Et plus loin encore, on pourrait, d'après ce qui précède, croire qu'il n'y a de fait social que là où il y a organisation définie, mais il est d'autres faits qui, sans présenter ces formes cristallisées, ont et la même objectivité et le même ascendant sur l'individu. C'est ce qu'on appelle les courants sociaux. Durkheim se rend compte d'ailleurs que cette idée de coercition qu'il a employée, donc il y a l'autonomie première, il y a l'antériorité des grandes formes sociales, mais il y a la coercition qui est au fond l'action du social à l'intérieur même de l'individu. C'est-à-dire un individu qui intègre les déterminants externes, se les approprie, ce qui d'une certaine manière annonce l'habitus bourdieusien dont on vous parlera dans peu d'instants. De son côté, le roman qu'invente Proust repose sur un dispositif qui peut faire penser au schéma d'analyse durkheimien mais en quelque sorte retournée. Nous sommes avec lui au plus près d'une subjectivité, et qui plus est, à deux étages, jeu du héros et jeu du narrateur. Mais cette division même est comme un reflet de l'opération coercitive postulée par Durkheim. Par ses mises à distance plus ou moins critiques, le narrateur a ce pouvoir d'objectiver les réalités intimes en les indexant sur les faits sociaux. C'est que ceux-ci, institutions, classes, courants d'opinion, prennent les sujets individuels dans leur réseau. Est-ce pourquoi Swann, comme Marcel d'ailleurs, donne l'exemple de personnalités volontiers passives et soumises aux contraintes du milieu? Partant de quoi? Oui, car on a souvent fait cette remarque, hein, que si Marcel était constamment présent, Marcel héros et Marcel narrateur, au total, il agissait peu, il était plus agi que d'agir. Tout cela nous conduit à une phrase des débuts de la recherche. « Notre personnalité sociale, écrit l'auteur, est une création de la pensée des autres. » Ce qui est donné dans la recherche comme antérieur à toute individuation, ce sont les classes sociales clairement désignées. L'aristocratie est là depuis un Combray immémorial, le faubourg Saint-Germain est là dont l'entrée de Guermantes est délimitée par un paillasson, la bourgeoisie est là qui pactise ou forme bloc, autant de territoires sociaux où se recrutent les acteurs du roman, territoires que le lecteur proustien ne peut manquer de percevoir, mais qu'il tient sans doute pour des classifications pittoresques, c'est-à-dire plaisantes au sens frivole du terme. Au point que le salon Verdurin, si symbolique, sera essentiellement tenu pour burlesque, alors qu'il joue un rôle décisif dans la vie culturelle parisienne. J'aurais voulu rappeler ici un très beau livre qui n'a pas eu la visibilité qu'il méritait. C'est Proust sociologue de Catherine Bidou-Zakariassen, qui date d'une vingtaine d'années, et où elle a si bien montré combien, si on passe de salon à salon dans la recherche du temps perdu, combien une lutte, pas seulement souterraine, mais une lutte considérable entre deux classes, la bourgeoisie de Verdurin et de quelques autres, et l'aristocratie de toute la maison Guermantes, cette lutte est sans pitié et conduira à une catastrophe. Pour le faubourg Saint-Germain, pas pour le roman ni pour d'autres. Le seul point fixe dans ce paysage chahuté est la société semi-rurale de Combray qu'incarne la famille conservatrice du héros, comme nous le rappelle le troisième emploi du terme sociologie dans le roman. Voilà, nous approchons de la fin. C'est parce que Saint-Loup était un gentilhomme que cette activité mentale, ces aspirations socialistes qu'il avait, qui lui faisait rechercher de jeunes étudiants prétentieux et mal mis, avait chez lui quelque chose de vraiment pur et désintéressé, qu'elle n'avait pas chez eux. Se croyant l'héritier d'une classe ignorante et égoïste, Saint-Loup cherchait sincèrement à ce qu'il lui pardonnasse ses origines aristocratiques, qui exerçaient sur eux, au contraire, une séduction et à cause desquelles il le recherchait, tout en simulant à son égard la froideur et même l'insolence. Il était ainsi amené à faire des avances à des gens dont mes parents, fidèles à la sociologie qui en vrai, eussent été stupéfaits qu'ils ne se détournent pas. Alors, l'emploi du mot sociologie est assez curieux ici, puisque qu'est-ce qu'il veut dire? Après tout, pas grand-chose d'autre que l'esprit de Combray ou l'idéologie de Combray, nécessairement conservatrice, parce que c'est Combray, parce que c'est aussi les parents de Marcel. Voilà. Mais, comme vous venez de le voir, le mot sociologie retrouve tout son sens lorsqu'il s'applique à cette relation étrange et d'une réciprocité malheureuse, si vous voulez, entre Saint-Loup et les étudiants socialistes, enfin, on peut le supposer, mal mis. Voilà, tout ça pour arriver à mon extrême fin, rassurez-vous. Tout ça pour vous dire que c'est un bel exemple, cette troisième sociologie, parce qu'au fond, quand je vous parlais de la sociologie de l'interaction, on était plutôt du côté tard. Quand je vous parle de la sociologie que surpasse Charlus, on voit très bien que l'horizon, c'est celui de la sociologie de Durkheim, telle qu'elle s'enseigne. Ici, avec cette troisième possibilité, j'aurais envie de dire que c'est une sociologie proprement, spécifiquement proustienne. Et elle l'est en ceci qu'elle est toujours fondée. Tout à l'heure, nous avions des divisions qui font aussi partie de la sociologie proustienne. Ici, nous avons toute une série d'inversions et de retournements. C'est parce que les étudiants Malmy ne suivent pas leur vocation de classe qu'ils admirent la bourgeoisie. C'est parce que Saint-Loup méprise sa propre classe qu'il va vers les étudiants socialistes, et ainsi de suite, si vous voulez. Je terminerai vraiment en disant que ce qui se produit avec Saint-Loup et les étudiants Malmy, c'est que la conduite des deux parties est interprétable et interprétée en cascade d'inversion, chacun n'agissant comme il fait que pour une suite de mauvaises raisons. Retournement continuel du pour au contre, aurait dit Blaise Pascal. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'avant de faire la table ronde, on peut revenir un petit peu sur... Non, ne vous retirez pas tout de suite. On a des questions à vous poser. Et de toute façon, on va vous associer évidemment à la table ronde. Moi, ce qui m'a frappé effectivement, c'est que ce que vous dites sur les territoires sociaux, chez Proust, chez les auteurs que vous avez abordés, il me semble que chez Proust, il y a vraiment une spatialisation, voire une objectalisation des seuils, des limites, des cloisons, etc., entre les différentes classes, et qu'on a un certain nombre d'objets métonymiques sociaux aussi qui sont en permanence menacés d'être abîmés, les cloisons sont en permanence menacées d'être franchies. Je pense par exemple évidemment au paillasson, le fameux paillasson devant chez les Verdurins, devant évidemment les Guermantes, sachant que le narrateur habite le même immeuble que les Guermantes et que ce paillasson est considéré comme une espèce de Sahara infranchissable, mais étant en mauvais état, il se rendra vite compte qu'en réalité, ce paillasson ne protège pas, pas grand-chose.
Écoutez, je crois que je peux dire deux choses à ce propos-là. La première, c'est que, oui, les objets sûrement, les espaces sûrement, les maisons, je que sais-je, mais tout ça dans un même ensemble sémiotique. Il me semble que tout ça fait signe pour lui. Mm-hmm. Alors, par ailleurs, oui, l'espace, Proust écrivain du temps, de la recherche du temps perdu, mais écrivain tout autant de l'espace, tout est toujours situé, et on voyage entre une série de localités qui définissent chaque fois des conditions, des comportements sociaux, enfin, Combray, c'est tout dire, évidemment, il faut avoir lu ce qui précède pour savoir, mais enfin, pour peu qu'on l'ait fait... Combray, ce petit village amène avec lui une masse de significations sociales, dans ce cas-ci intangibles, dans d'autres cas mobiles, mais sûrement. Oui.
Et je pense aussi qu'il y a toute la thématique de la menace sociale, avec par exemple cet autre objet métonymique de la séparation des classes que l'aquarium. Le grand hôtel de Balbec, qui est comme un aquarium, où le narrateur se rêve de façon très étrange des deux côtés de la ville, puisque c'est lui qui dîne du côté des La Rochefoucauld et autres aristocrates et bourgeois qui sont du bon côté, j'allais dire. De l'autre côté, il y a le petit peuple, les pêcheurs, les ouvriers, les petites gens, mais aussi il y a un écrivain qui se balade en se disant... un écrivain qui devient amateur d'ichtyologie humaine et qui se dit qu'il aimerait bien dépeindre les gens qui sont à l'intérieur. Alors c'est un écrivain qui voudrait dépeindre finalement le narrateur qui lui est du bon côté entre guillemets, hein, avec cette fameuse parenthèse sur le fait qu'un jour la paroi de l'aquarium va éclater. Et donc on voit vraiment à quel point le narrateur a une double postulation d'être à la fois le sociologue qui étudie et celui qui est étudié. Et moi, ce qui me frappe, c'est le fait que le sociologue devient... c'est là où, c'est peut-être mon dada à moi, où on passe peut-être des sciences sociales aux sciences du vivant. Il me semble que le sociologue amusant devient, en étant amateur d'ichtyologie humaine, en étant herboriste moral, etc., se fait d'une certaine manière une sorte de biologiste et d'historien naturel pour étudier les classes sociales. Et là, ce serait étudier toute la question du darwinisme et du spencerisme chez Proust, qui nous ramène évidemment à des questions sociales.
Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Vous parlez de l'aquarium, moi je dirais simplement... Ouais. Le lift du Grand Hôtel est tout aussi intéressant. C'est tout ce qui se passe de choses dans cet ascenseur quand Marcel accompagne le liftier. Il y a c'est un des arts de Proust, on ne le dit pas si souvent, mais par exemple l'histoire des étudiants mal mis et de Sadou, ça se raconte en trois lignes. Et c'est toute une histoire, enfin, c'est un scénario, scénario sociologique assez complet. Voilà, je crois que, mais alors, quant au biologique, oui, j'aurais voulu parler ici de, je vais juste dire ça, j'aurais voulu parler de corps. Je crois que la fine pointe de la sociologie, même durkheimienne, hein, si vous voulez, elle se trouve dans ce que Proust dit des corps. Il prend, Durkheim commence par les grandes structures, Proust commence par l'autre bout.
Tout à fait. Hein.
Il parlait du tactile tout à l'heure, ça se tient.
Est-ce que, alors, Barbara et ensuite Philippe?
Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, notamment avec aussi l'idée que la... Pour reprendre Tarde, il faut le libérer de l'identification avec l'individualisme méthodologique. Et je me suis rappelé en vous écoutant qu'il y a non seulement c'est Bruno Latour qui insiste sur ce geste, mais Deleuze dans sa relecture, donc un auteur qui a affaire avec Proust, parce qu'il est justement, il parle d'une relation qui précède le sujet, qui les traverse et qui les met en relation avec les autres entités. Donc il y a vraiment une tradition française de l'interprétation proustienne aussi de la sociologie.
Et c'est un très beau cas parce que Tarde n'aurait pas pu être lu comme ça, même par des gens comme nous, ou semblables à nous, il y a 40 ou 50 ans. Tarde est tout à coup lisible, ainsi.
Lisible, elle l'avait fait, grâce à sa théorie hegelienne de la Wechselwirkung.
Il faut que je lise.
pour revenir à une suggestion de vidéo qui finalement nous concerne tous, il y a une magnifique reprise du débat Tarde-Durkheim, jouée par les deux représentants de deux courants contemporaines qui sont Bruno Cassanti pour les néo-durkheimiens et Bruno Latour justement pour les néo-tardistes, qui a été mise en scène, jouée à Cambridge et reprise dans des théâtres à Berlin, etc. et qui a été, dont l'idée a été justement faite par une chercheuse d'Ukraine qui est Frédérique Aitouati, qui a eu l'idée de remettre en scène et d'incarner dans un nouveau débat. Vous le trouvez sur les sites de Bruno Latour sur YouTube. Et c'est magnifique, c'est la façon la meilleure de comprendre les enjeux du débat, la micro et la grande sociologie. Et ce qui est bizarre, c'est que Bruno Cassanti, qui avait fait une très belle introduction au loi des limitations, en insistant justement sur la question de la relation et de l'intersubjectivité, il est passé de l'autre côté parce que là, c'était pas suffisant, évidemment. Je me permets d'ajouter deux petites remarques à votre... D'un côté, la question de pourquoi Swann devient un peu si vulgaire dans sa sociologie, parce qu'il est pour Odette, c'est pour amour. Donc finalement, il reste bon dans son et généreux dans son cœur. Il le fait pour pour aider Odette.
C'est pervers, ce que vous dites.
Il renonce à son snobisme élégant pour aider Odette à justement avoir de bonnes connexions dans l'autre société. J'ai l'impression que les mots sociologie, hein, surtout dans cette dernière citation, est l'équivalent ou le synonyme des normes, c'est-à-dire d'un système des normes de la convenance sociale. Donc la sociologie des congrès est justement le code de politesse, de comportement qui permet à la famille des narrateurs de ne pas se mêler.
Et c'est le socle qui ne bouge pas. Il est là.
Et même la sociologie amusante, c'est justement la même chose. C'est un code un peu imprévu et personnel dont Swann s'amuse pour mélanger des choses qui ne devraient pas aller ensemble.
Si vous le permettez, je vais simplement ajouter ceci que j'aurais dû dire, c'est que dans le conflit, s'il y en a un, mais je ne crois pas qu'il y en ait un vraiment, entre les sociologues et le romancier qui est Proust, je vois à travers les trois citations que j'ai faites, où est le mot sociologie, à la fois une sorte de mise à distance moqueuse et puis en même temps une reconnaissance, un salut finalement assez amical à cette sociologie dont il ne sait pas trop ce que c'est, mais il n'est pas fou, il n'est pas idiot.
Je reviens à ce que vous avez dit au début, que Proust soit bête et méchant, ce n'est pas du tout en contradiction avec ce que Proust lui-même affirme constamment, le caractère inextricable du mélange du bien et du mal, mais probablement que le lecteur de la recherche est bien plus manichéen que Proust. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, et je reviens à l'exemple de Swann, d'une part aux bonnes actions des méchants comme un Verdurin, c'est dit mais on n'y croit pas, ou au fait que M. Verdurin se révèle un grand critiqueur, et effectivement aux très mauvaises actions de Swann et de Charlus. Il est dit que Charlus fait mourir d'humiliation Madame de Molay, et ça on le dit bien peu parce que c'est pas... Et Swann, en fait, c'est avant Odette qu'il fait des bouquets sociaux, c'est justement quand il maîtrise et ensuite ça va lui retomber dessus. C'est un jeu pervers, effectivement, cruel. Au début, vous aviez dit aussi que ça revient avant, c'est au tout début.
Ça m'a échappé, merci de ce temps.
Que Swann s'amuse, effectivement, d'un point de vue érotico-social, à. Ils sont bêtes et méchants, effectivement, et je crois qu'on peut dire que Proust peut être aussi.
J'ai un peu accablé ce pauvre Charles, mais ça fait un peu partie de son dandysme aussi.
Je vous remercie.